VOA Afrique.
Bonjour à tous et bienvenue dans Washington Forum, un Washington Forum consacré aux élections américaines. Nous suivons la Convention nationale des Républicains grâce notamment à l'un de nos envoyés spéciaux, Nicolas Pineau, depuis Cleveland.
Bonsoir Tatiana, bonsoir à tous. VOA Afrique en direct de Cleveland dans l'Ohio pour la Convention républicaine. Vous l'avez dit, depuis lundi, VOA vous fait suivre les débats politiques, les à côté de cet événement politique majeur dans la vie politique américaine. En novembre prochain, on votera pour la présidentielle et pour le parti républicain, Donald Trump sera sur le bulletin de vote.
Donald J. Trump has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States.
Donald Trump, officiellement désigné comme le candidat du parti républicain, déjouant tous les pronostics. Qui est le milliardaire new-yorkais? Quel est le programme de cet outsider qui parle fort et bouscule la scène politique américaine? Le parti républicain ressort-il uni après cette convention de Cleveland? Décryptage dans ce Washington Forum.
Washington Forum.
Et merci de votre fidélité à VOA Afrique. La convention républicaine touche à sa fin ce jeudi. On attendait beaucoup de tensions, beaucoup de violences. Cela s'est beaucoup mieux passé que prévu. Retour sur ce qui s'est passé cette semaine à Cleveland. Le débat d'idées, les à côté en images à travers ce reportage.
Cleveland, centre du monde pour les républicains. Les quelques 2500 délégués sont venus des quatre coins du monde pour assister à la convention du parti. Une réunion de quatre jours placée sous le signe de la sécurité en vue du contexte terroriste élevé sur la planète. De nombreuses manifestations ont eu lieu. De la tension, mais pas de violence extrême comme on pouvait le craindre. Le candidat Trump déchaîne toujours autant les passions. Ses supporters et ses adversaires ont pu le dire haut et fort dans les rues de Cleveland.
Trump s'opposait à toutes les valeurs américaines. C'est très important pour tous les Américains d'opposer au Trump. Nous sommes pour l'égalité, pour la justice, pour l'opportunité pour tout à Trump.
Donald J. Trump.
La direction annonce que Donald Trump a reçu la majorité des votes autorisés à cette convention et est choisi pour représenter le Parti républicain à la présidentielle.
Dans la Quicken Loans Arena, sous les yeux de sa famille, Donald Trump est devenu officiellement le candidat républicain pour la présidentielle de novembre prochain. Mais le parti est-il uni derrière son candidat? Pas sûr, au vu de l'absence de nombreux ténors du parti, même si certains adversaires des primaires soutiennent farouchement la candidature Trump face à Hillary Clinton. C'est le cas de Chris Christie, le gouverneur du New Jersey.
On a un homme qui n'a pas peur, un homme qui veut nous guider, un homme qui juge les gens sur leur performance, peu importe leur sexe, leur race, leur ethnie ou leur religion. Je vous implore, il faut demander moins dans cette élection. On a un homme qui n'a pas peur, on a un homme qui veut nous guider, un homme qui juge les gens sur leur performance, peu importe leur sexe, leur race, leur ethnie ou leur religion. Je vous implore, il ne faut demander moins dans cette élection.
Cleveland 2016 a été à l'image du candidat Trump, non conventionnel, avec de la polémique et de la grandeur. Les électeurs américains diront en novembre prochain si Donald Trump peut accéder à la Maison-Blanche.
Et avec nous, tout au long de cette émission, ici dans le studio 52 à Washington, Thierry Dongala, conseiller politique. Vous avez travaillé au Congrès aux côtés des républicains et des démocrates. On vous retrouve tout de suite.
Bonjour.
Et nous avons le plaisir d'avoir ici sur ce plateau à Cleveland Walid Fares. Vous êtes conseiller en matière de politique étrangère pour le candidat républicain Donald Trump. Bonsoir.
Bonsoir et merci pour l'invitation.
Alors évidemment, on rappelle que cette convention s'est déroulée ici à Cleveland, pas vraiment dans l'unité, en tout cas au début, hein, puisque de nombreux sénateurs, de nombreux représentants et de gouverneurs étaient absents. On note également les absences de Mitt Romney, du sénateur McCain, les deux anciens candidats pour la présidentielle des républicains, et des Bush, hein, les 41e et 43e présidents des États-Unis. Mais d'un autre côté, on a également eu des adversaires des primaires qui étaient là, notamment Chris Christie, Marco Rubio a prononcé. Et pourtant, nouvelle polémique hier soir avec Ted Cruz qui n'a pas formellement donné son soutien à Donald Trump. Est-ce que vous pensez vraiment que le parti est unifié derrière le candidat Donald Trump ?
Une grande partie du parti est unifiée maintenant. Il a besoin du vote populaire, il l'a eu. Il a eu beaucoup de votes qu'il n'avait jamais voté avant, donc il a gagné de ce côté-là, de la base populaire. Bien sûr, comme vous l'avez bien dit, en ce qui concerne l'establishment, l'élite politique, il lui manque quelques appuis, il ne va pas les avoir. Je ne pense pas qu'il va les avoir avant l'élection de novembre. Particulièrement en ce qui concerne le sénateur Cruz, c'était prédit. Monsieur Trump savait très bien ce que Cruz allait dire. Il pensait que c'était possible qu'il pourrait le faire, lui donner l'appui à la fin oralement en dehors du texte. Il ne l'a pas fait. Et donc, il sait que c'est derrière lui à ce moment-là. Il va envoyer ses conseillers pour parler aux conseillers de M. Cruz pour voir s'il y a quelque chose qui peut se faire avant novembre.
Alors, on rappelle que vous êtes conseiller en matière de politique étrangère pour Donald Trump. Comment vous définiriez le style Donald Trump? Certains le trouvent un peu brut, un peu fort, parfois notamment dans ses propos. A-t-il l'esprit de consensus, notamment pour diriger un pays comme les États-Unis.
Il y a eu beaucoup de critiques, surtout venant de ses adversaires, donc 80%. Il y a eu des critiques venant du parti lui-même, mais nonobstant, il a pu donc recevoir un appui énorme en ce qui concerne le vote, les délégués. Bien sûr, il est en train d'évoluer. Vous voyez un peu la différence entre ses déclarations faites dans les rallyes populaires, et donc ses discours politiques qui sont bien agencés, bien intégrés. Il va continuer à évoluer jusqu'au moment de l'élection. Et donc les électeurs vont décider.
Les électeurs vont décider. Tatiana, on continue à parler avec vous depuis Washington de cette convention en elle-même.
Ici à Washington, nous avons donc Thierry Dongala qui est conseiller politique et qui a travaillé au Congrès américain aussi bien avec les républicains qu'avec les démocrates. La question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce qu'une investiture comme celle qu'on vient de voir, un grand show à l'américaine, est-ce que ça aurait été possible dans un parti en Afrique par exemple? Est-ce que ça inspire?
Bon, pour l'instant, je ne pense pas trop parce que ce qu'on voit, tel qu'on a vu dans le journal, il y a des partis très compétitifs à l'intérieur du parti qui ont été donnés des voix. Ils ont eu leur chance pour lutter pour le plateforme. Mais en Afrique, pour l'instant, il n'y en a pas trop qui sont aussi ouverts. Les seuls pays que je peux penser, peut-être Botswana ou d'autres comme ça.
Est-ce que les personnalités africaines sont venues à cette convention républicaine? On sait que pour la convention démocrate, il y en aura. Mais est-ce que là, il y avait justement des personnalités africaines qui se sont dit « allons voir ce que Trump fait ».
Malheureusement, selon mes enquêtes, non. Mais il y a beaucoup de représentants, des personnalités africaines qui sont là, qui font attention des développements du plateforme républicain.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les républicains essayent aussi de créer des liens avec tous ces représentants qui ont pu venir?
Au moment où c'est des histoires de business et d'affaires, oui. La façon que les républicains voient l'Afrique, c'est plus vers le commerce et moins comme les démocrates au niveau d'affaires politiques, des droits de l'homme et tout cela.
Donc si c'est pour le business, les républicains se tourneront vers le continent?
Vraiment, vraiment, oui.
Nicolas Pineau, je reviens vers vous à Cleveland avec votre invité.
Et oui, puisque Walid Fares, donc en qualité de conseiller en politique étrangère, rencontre beaucoup d'Africains présents ici, notamment les ambassadeurs. On en discutait avant l'émission. Walid Fares, on a eu notamment les ambassadeurs du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Maroc ou encore de la Tunisie. Que vous disent-ils, eux qui sont présents ici, sur la convention républicaine?
On a rencontré en fait beaucoup d'ambassadeurs en général, à peu près 50 ambassadeurs, des réunions organisées par le département d'État, par le Parti républicain, par l'institution Heritage. On a concentré sur les questions des zones de conflit, y compris en Afrique. Donc on a parlé au représentant de la Tunisie, l'ambassadeur de Tunisie, qui a donc partagé un peu ce qui se passait, le combat contre le terrorisme, mais aussi la démocratie, et une longue conversation avec l'ambassade du Tchad. Le Tchad étant dans une situation très particulière en ce qui concerne aussi les questions de sécurité un peu partout. Alors leur grande inquiétude est de savoir si une présidence, si une administration Trump va soutenir le combat des Africains contre le terrorisme, va les soutenir dans les questions économiques, parce que bien sûr, après avoir entendu toutes ces critiques contre M. Trump qui apparemment veut se retirer du monde, en fait non, nous avons adressé ces inquiétudes et donc confirmé qu'une administration Trump va se solidariser avec les Africains.
Les ambassadeurs africains, généralement, ont peut-être une préférence plutôt démocrate. C'est vrai, de par l'histoire, il y a toujours un lien entre le Parti démocrate et ces pays africains. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un changement ou que quand même il y a beaucoup de travail à faire pour les Républicains pour gagner le cœur de ces pays africains?
Tout à fait. En fait, dans la culture politique africaine, bien sûr, depuis des décennies, il y a eu ces relations spéciales entre le Parti démocratique et les Africains. Mais maintenant, l'Afrique nouvelle, l'Afrique des réalités de maintenant, surtout au point de vue sécurité, surtout au point de vue des démantèlements des États, ils ont expérimenté, enfin, ils aiment bien sûr la personnalité de M. Obama, qui est africain-américain, mais il y a les politiques étrangères qui n'ont pas été très dans l'intérêt de ces pays africains, surtout avec ce qui se passait en Égypte, en Libye, en Tunisie, mais aussi les pays africains du Sahel se sont sentis un peu à l'écart de toute cette action. Ils préfèrent maintenant voir une administration qui sera un peu plus en solidarité avec ces pays.
Alors, on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est un intérêt économique, un intérêt militaire, les deux? Qu'est-ce qui intéresserait une administration Trump pour le continent africain?
Dans l'immédiat, c'est certainement la question de sécurité, parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'économie. Et donc, beaucoup de ces ambassadeurs, de ces diplomates, bien sûr, les réunions étaient fermées, donc il n'y avait pas les médias, mais ils ont exprimé leur inquiétude en ce qui concerne la stratégie des djihadistes. L'EI étant présent en Libye, le Boko Haram au Nigeria, il y a aussi la question de la Somalie. Ils voulaient savoir si l'administration Trump avait au moins des plans. Deuxièmement, certainement, une deuxième volée de questions, adresser les questions économiques. Qu'est-ce qui va se passer avec l'aide américaine à tous ces pays? Et tous ces pays ont besoin de cette aide américaine.
Et très rapidement, sont-ils choqués? Ont-ils demandé des précisions concernant l'interdiction de faire venir des musulmans aux États-Unis? Ça a été une déclaration choc du candidat Donald Trump.
C'est vrai, mais c'était la première vague qui s'est passée en décembre. Puis on a eu l'occasion d'expliquer un peu mieux quels étaient les motifs et comment M. Trump est en train d'évoluer. Dernièrement, dans ses déclarations, il était très clair. C'est une question contre les djihadistes, pas contre les musulmans. Et d'ailleurs, dans sa déclaration de politique extérieure, il a dit, je vais m'associer, je vais être un partenaire avec le monde arabo-musulman, avec les modérés. Donc les Africains ça a été très clair pour eux qu'ils vont être des partenaires et non pas des destinataires de ces politiques.
Voilà Tatiana pour la politique étrangère africaine du candidat républicain Donald Trump ici depuis Cleveland.
Effectivement, on va revenir sur cette question économique qui préoccupe aussi le continent. Donc, tous ces conseillers spéciaux, ces ambassadeurs qui sont rendus à Cleveland, Thierry Dongala, qu'est-ce qu'ils espèrent concrètement? Aujourd'hui, Donald Trump, c'est un profil de businessman. Qu'est-ce qu'il peut apporter?
Bon, ce qui est très intéressant avec Donald Trump, c'est que les pays africains trouvent vraiment une opportunité de vraiment reconstruire, refonder une relation avec potentiellement un autre président au niveau économique. Donc, dernièrement, on sait que les Américains, ils ont une politique de AGOA, on appelle AGOA, c'est-à-dire ces derniers 20 ans, même 10 ans, c'était vraiment ça qui était en
une
face.
Politique de développement, vraiment.
De développement. Mais maintenant, avec Trump, comme on a vu avec sa politique de l'OTAN, il est prêt à renégocier tout. Donc, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que AGOA est prêt à être revisité, mais il faut savoir, je pense qu'au lieu que ce soit les Américains qui approchent l'Afrique, une politique que les Américains doivent développer cette relation, il faut que les Africains, maintenant, eux-mêmes, doivent penser d'eux-mêmes que ce qu'ils ont à apporter à la table. Parce que Donald Trump, en tant qu'homme d'affaires, c'est des propositions qu'il faut faire. Qu'est-ce que on apporte à la table.
Est-ce que vous pensez qu'il va, si jamais il doit être à la Maison Blanche, est-ce qu'il va gérer cet aspect économique comme un homme d'affaires ou comme un homme politique?
On le voit déjà dans sa politique qu'il est en train de dévoiler. Dernièrement, j'ai parlé avec des gens proches de la campagne Trump et ils disent vraiment que c'est une feuille vierge avec lui, surtout comme sa motto, c'est « America first ». On peut s'attendre que vraiment c'est la politique domestique et bon, au niveau international, au niveau de la politique contre le terrorisme. Donc l'Afrique sera une après-pensée, donc un afterthought. Donc
c'est pas prioritaire.
C'est pas prioritaire. Donc quand les Africains.
Mais pourtant le continent africain reste l'un des continents où le boom économique est le plus important, où la croissance reste la plus importante au monde.
Voilà.
Donc, ne peut pas non plus faire l'impasse.
Oui, on ne peut pas ignorer. Donc dans ce cas, quand on parle de l'Afrique avec les Républicains et ceux qui sont autour du président candidat Trump. On voit bien que ce soit le pétrole ou des affaires stratégiques économiques.
C'est déjà la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite pour la suite de Washington Forum.
Musique. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Jamina, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Vous et nous, c'est votre émission.
Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous.
Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis.
Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche.
Racontez-nous vos histoires.
Et nous vous raconterons les nôtres.
Vies africaines.
Vies américaines.
Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun.
Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie.
Vous et nous.
Vous et nous.
Ensemble.
De retour dans ce Washington Forum, dans cette deuxième partie, toujours au cœur de la convention républicaine qui a officiellement investi Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle de novembre prochain. Il y a six mois, les experts prédisaient pourtant la mort politique de Donald Trump. Maintenant, ils se demandent ce qui pourrait l'arrêter et comment. Qui est l'irrévérencieux milliardaire aux envolées populistes que certains voient déjà comme le prochain président des États-Unis, Nicolas Pineau?
Longtemps, les adversaires de Donald Trump ont cru que le milliardaire new-yorkais ne serait qu'un épiphénomène dans cette campagne. L'homme d'affaires a déjoué tous les pronostics et a survécu aux primaires de son parti. Son atout principal, être un homme hors du système qui n'a jamais occupé de fonction politique. Il rassure une Amérique qui s'agace du politiquement correct et de la bureaucratie de Washington.
Nombreux sont les Américains qui vivent dans une pauvreté terrible et dans la violence. Nous avons besoin d'emplois et nous allons produire ces emplois. Les divisions raciales sont pires, elles ne s'améliorent pas. À la une de nos médias, on voit une hausse de la criminalité et des meurtres dans nos villes. Il est maintenant temps pour la prière, l'amour, l'unité et le leadership. Nos enfants méritent un avenir meilleur que celui que nous leur offrons aujourd'hui. Mais pour y arriver, nous devons travailler ensemble et se tenir ensemble. Nous allons rendre la sécurité aux États-Unis.
Mais Trump, le candidat, déchaîne les passions dans son propre camp. Ses positions en matière d'immigration ou sur les musulmans ont provoqué de vives réactions. Donald Trump, 70 ans, s'en moque. Lui, le fils d'un riche entrepreneur qui a tout réussi dans les affaires et dont la fortune est aujourd'hui estimée à près de 4,5 milliards de dollars par le magazine américain Forbes.
Nous devons rejeter les campagnes de peur et d'intimidation menées par les puissantes entreprises, les médias et les dynasties politiques. Ceux qui ont truqué le système pour leur bénéfice sont prêts à tout pour que rien ne change. Ceux qui ont truqué le système soutiennent Hillary Clinton parce qu'ils savent que tant qu'elle sera au pouvoir, rien ne va changer.
Ses qualités de businessman, il promet de les mettre à profit s'il gagne la Maison-Blanche. Car même si l'Amérique va mieux et a retrouvé le plein emploi, plus de 46 millions d'Américains vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est à cette frange de la population que Donald Trump promet un avenir meilleur. Donald Trump espère en novembre déjouer à nouveau les pronostics. Il n'est pas le favori de cette présidentielle, mais se trouve aujourd'hui au coude à coude avec Hillary Clinton dans les sondages. Réponse en novembre prochain.
They cannot hear me.
Voilà, de retour à Cleveland en compagnie de Walid Fares, conseiller en politique étrangère de Donald Trump. On parlait du profil de Donald Trump à l'instant. C'est vraiment l'année des candidats hors parti, des outsiders. Bernie Sanders pour le Parti démocrate, il ne l'a pas gagné malheureusement. Et évidemment pour les républicains, Donald Trump.
Pour les républicains, Donald Trump représente deux choses. Bien sûr, un outsider, ça c'est très clair. Mais rappelez-vous que dans un an ou deux ans, il sera un insider. Tous les outsiders deviennent insiders. Ronald Reagan était un acteur, puis il est devenu un gouverneur de la Californie, et donc il n'était pas parti de l'establishment des affaires étrangères, et puis il est devenu un des plus fameux, des personnalités les plus fameuses dans l'histoire de l'Amérique. Il y a aussi autre chose, c'est que la nouvelle masse d'électeurs qui est venue à travers Donald Trump va transformer le parti, pas maintenant, mais dans les années à venir, dans un parti tout à fait différent de celui qui existe maintenant. Il va y avoir une symbiose entre les électeurs du passé et les électeurs qui ont été amenés par M. Trump.
Alors vous parlez de la structure du parti républicain, c'est encore un parti majoritairement très blanc. On voit ici sur les conventions très peu de minorités, noires, hispaniques, asiatiques. C'est un problème en vue de la présidentielle de novembre prochain ?
Pour un candidat qui est classique, comme c'était le cas avec M. Romney, j'étais son conseiller aussi en 2012, oui, il a perdu beaucoup chez les hispaniques, il a bien sûr pratiquement pas reçu beaucoup d'appui chez les Africains-Américains. Mais pour M. Trump, ce qui se passe, c'est qu'il est en train de prendre une majorité énorme chez les Européens-Américains, donc chez les Blancs, Whites, et donc il va avoir peut-être un peu d'appui chez les Hispaniques qui sont catholiques conservateurs et très peu chez les Africains-Américains. Il va essayer de passer le cap maintenant, gagner, puis après il va essayer de faire des politiques d'ouverture économique. Il a déjà commencé à le faire hier vis-à-vis de la communauté hispanique d'abord.
Alors l'un des piliers de la politique de Donald Trump, c'est bien évidemment la sécurité. Un mot sur le groupe État islamique. On sait qu'il en parle beaucoup dans ses discours. En quoi finalement la politique contre le groupe État islamique serait différente de celle de l'administration Obama?
Oh, sur ce plan-là, elle va être complètement différente. Premièrement, M. Trump ne parle pas de containment, donc d'être...
Contenu, oui, de contenir.
De contenir l'État islamique, mais de la démanteler. Et pour démanteler, il faut donc saisir le territoire. Pour saisir le territoire, il faut avoir des forces sur le terrain. On sait très bien que ça ne va pas être des forces américaines, donc vous n'avez pas à poser la question. Ça va être une force d'alliés locaux, donc des Arabes modérés. Il va parler à 5 à 6 pays arabes modérés dans la région. Il va aussi armer et appuyer les Kurdes, mais aussi les factions arabes, sunnites, chiites, modérées. Donc il va faire une coalition de modérés. Mais le plus important, c'est de poser la question, qui va prendre le contrôle du territoire libéré de l'EI? La faute sous l'administration d'abord de Bush puis d'Obama, c'était de détruire Al-Qaïda et donc faire le vide. Maintenant, le vide doit être rempli par les modérés. C'est ça la stratégie de Trump.
Voilà pour la stratégie de Donald Trump contre le groupe État islamique, Tatiana.
Alors, une stratégie et des acteurs pour pouvoir constituer sa future administration, si jamais il est élu. Et le colistier de Donald Trump, justement, ce serait le conservateur Mike Pence. Il a formellement accepté l'investiture de candidat républicain à la vice-présidence pour l'élection de novembre. Dans son discours de mercredi soir, il critiquait logiquement le camp adverse, celui de Hillary Clinton. Je vous propose de l'écouter.
Au moment même où l'Amérique réclame quelque chose de nouveau et différent, l'autre partie a répondu avec un vieil agenda, un agenda prévisible. Les Américains des deux partis ont soif de changement, prêts à se libérer des vieilles habitudes de Washington, et les démocrates sont sur le point de nominer quelqu'un qui représente tout ce dont le pays est fatigué. Vous savez, Hillary Clinton veut un meilleur titre, et j'en voudrais aussi si j'étais secrétaire américain du statu quo.
Alors, comme à chaque émission, vous êtes nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Voici quelques-uns de vos commentaires. On part tout de suite en RDC où Alphonse Boaki dit « Ted Cruz, intervenant hier à Cleveland, demande de ne pas voter Trump, mais de choisir la conscience. Ce message peut-il détourner les pro-Trump ?» Et une autre réaction, celle de Niavo Tsatsu au Togo. Maintenant, il est impérieux qu'il fasse tout pour réconcilier sa famille républicaine, puis les Américains. Trump doit être président. Thierry Dongala, je me retourne vers vous. Ce premier commentaire Facebook qui revient sur un personnage controversé, est-ce que aujourd'hui c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui, même les ténors républicains vont changer d'avis?
Non, pour l'instant, on ne voit pas que ça trouble trop le camp Trump, parce que bon, c'est une question en fait, d'unité dans le parti. Et donc, comme Trump, il arrive à contrôler le message et contrôler l'agenda, ça ne trouble pas trop, ça en fait crée un show. Donc,
mais jusqu'à quel point il le contrôle, puisqu'on a vu Ted Cruz appelé à ne pas voter pour lui, finalement.
Oui, bon, pas, il n'a pas ouvertement dit ne votez pas pour lui, mais ce qu'on peut dire, c'est que Ted Cruz, en ce moment, il est isolé dans le parti, parce que là, il n'a pas l'appui du leader du parti.
Demain, on imagine Donald Trump à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale. Quels pourraient être ses premiers actes pour, par exemple, que les Africains se rapprochent de lui? On sait que Barack Obama avait été populaire, il en a déçu certains sur le continent, mais il avait été populaire. Est-ce que Donald Trump peut être aussi populaire que Barack Obama?
Bon, premièrement, on peut dire que tous ceux qui sont autour de Trump disent, et même nous, en tant que public, on sait que personne ne sait quoi à s'attendre pour, du côté de Trump. Mais on sait que Donald Trump déjà a fait des briefings à la Convention des Républicains, les 100 premiers jours, c'est les affaires. Donc, si les Africains veulent s'approcher avec le régime Trump, il faut commencer déjà à penser quelles sont les affaires qu'on peut apporter au niveau du commerce entre Afrique et États-Unis.
Alors, enfin, pour une analyse complète, un autre envoyé spécial de VOA Afrique à Cleveland, c'est Idrissa Sedoudia. Il revient avec nous sur cette convention. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Bonsoir, Idrissa.
Bonsoir Tatiana. Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que on a vu beaucoup la famille de Donald Trump, sa femme d'abord, ses enfants, pour présenter un visage beaucoup plus humain de Donald Trump, un visage que le public apparemment ne connaît pas compte tenu de ce qu'on a entendu pendant toute cette campagne électorale. Mais l'objectif de cette convention, de toute convention en réalité, c'est de réunifier le parti et ensuite d'élargir la base pour faire appel à un électorat beaucoup plus grand. Alors, quand on voit ce qui s'est passé dans cette convention, où seuls 18 délégués sur les 2470 et quelques, n'est-ce pas, qui étaient là, il n'y avait que 18 noirs, ça montre que le parti doit pouvoir faire plus pour élargir sa base. Et ne parlons pas des hispaniques qui ont été offensés par les propos de Donald Trump. Alors, il faut aussi offrir une vision. Qu'est-ce qu'on attend de ce parti, de ce président, quand il sera à la Maison-Blanche? Et je crois que peut-être ce soir, quand il prononcera son discours, Donald Trump nous donnera une idée de ce qu'il compte faire, au-delà des slogans qu'on a entendus, rendre, restituer à l'Amérique sa grandeur, ainsi de suite.
Alors justement, pendant cette convention, les Républicains n'ont pas manqué de tacler le camp adverse, celui des démocrates, celui de Hillary Clinton. La semaine prochaine, on assistera à la seconde convention, celle des démocrates. Justement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'il y aura autant de choc chez Donald Trump?
Bah écoutez, Tatiana, on le découvrira ensemble, puisque nous serons ensemble à Philadelphia. Mais la tâche sera peut-être, pour ce qui est du parti, la réunification du Parti démocrate sera beaucoup plus facile pour Hillary Clinton dans la mesure où Bernie Sanders, son adversaire démocrate, a dit qu'il fera tout pour barrer la route à Donald Trump. Le défi, le grand défi pour Hillary Clinton, ce n'est pas tellement son parti actuellement, mais c'est la perception du public américain qui ne lui fait pas confiance, qui pense qu'elle est malhonnête, surtout après cette affaire des emails, en fait, emails privés. Alors donc, elle devra s'évertuer à rassurer et à montrer au public américain qu'il peut lui faire confiance. Ce sera son plus grand défi.
Effectivement, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous, Idrissa Sedoudia, Nicolas Pinault, de nous avoir fait vivre cette convention républicaine pas comme les autres.
Eh oui, on remercie à Cleveland nos invités, les équipes techniques, notamment Salwa Jaafari et Michel Joseph. Et Tatiana, on inverse les rôles puisque vous serez à Philadelphie la semaine prochaine.
Effectivement, je vous donne rendez-vous dès lundi prochain depuis Philadelphie pour la Convention démocrate, le numéro spécial de Washington Forum. Merci.